gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Piquets, do you feel good? Comment ça va?
Bonsoir, oui, on a 5 minutes de retard, mais c'est parce qu'on a laissé un peu de place aux copains de Dead Moon Knight qui étaient avant nous pour qu'ils puissent finir tranquillement son émission. Oui, ça fait du bruit quand tu frottes tes mains, Jean-Yves. Donc Jean-Yves est là ce soir.
Bonsoir.
Clara, la technique.
Bonsoir.
Et on reçoit ce soir deux invités pour les rues de Lyon. Oui, ça devient une habitude. Dont un que vous n'avez eu qu'une seule fois autour de cette table. Adrien, bonsoir.
Bonsoir.
Et un que vous avez eu un certain nombre de fois autour de cette table.
Mais Mathieu. On ne s'en lasse pas, n'est-ce pas?
Mais non, pas du tout. Donc oui, alors on va donner vos noms parce qu'ils sont sur la couverture, ça fait bien. Donc Mathieu Robière et Adrien Allier, merci d'être là ce soir avec nous. Je vais juste rappeler avant qu'on démarre comment nous joindre. Donc c'est lacausericanu@gmail.com. Donc genre tu as pas aimé l'émission de ce soir, tu peux nous écrire pour le dire. Tu as aimé, tu peux nous écrire pour dire aussi que tu as aimé. Et si tu veux laisser des commentaires, c'est à blogs.radiocanu.org/lacauserie si ça marche. Sinon envoie un mail parce qu'on sait pas trop si ça marche les commentaires.
En fait, je sais pas si on m'entend.
On t'entend pas vraiment, ton micro est très faible, enfin, y a un truc qui va pas.
Je crois que les blogs ne fonctionnent toujours pas, on a un petit souci technique, mais voilà. Non, mais moi je m'entends bien dans mon casque, enfin on s'en fout, mais
voilà, c'est pas grave.
Non, mais les blogs, je crois qu'effectivement vous ne pouvez toujours pas commenter pour l'instant parce qu'on a quelques petits soucis techniques, mais n'hésitez pas à faire part de vos remarques, effectivement, comme tu le disais, par mail. Ça fait toujours plaisir, ou pas d'ailleurs, mais faites-le.
Et donc ce soir, on va parler du numéro 84 des rues de Lyon. Alors je vais vous laisser rappeler quel est le concept quand même des rues de Lyon. Mais avant ça, on va commencer par vous présenter. Parce que voilà. Donc qui veut commencer par rappeler qui il est? Bon, Mathieu, tu passes après. Alors,
parce que déjà, c'est pas exactement ce que je voulais.
T'es arrivé il n'y a pas... Non, Adrien, du coup, alors.
J'ai une petite activité dans la bande dessinée depuis quelques années. En fait, à l'origine, je bosse dans l'histoire, je suis historien de formation et je bosse dans le milieu de la culture. Et depuis maintenant 8 ans, je suis chargé de développement culturel au mémorial de la prison de Montluc. Et c'est à cet endroit qu'on s'est rencontré avec Mathieu, qui m'a initié professionnellement à la bande dessinée, où moi j'ai pu l'accompagner sur un de ses nombreux projets, puisque lui il aura une biographie plus étoffée que la mienne à donner, et où ensemble on a commencé à collaborer sur différents projets. Et moi, depuis quelques années, voilà, j'ai commencé à écrire quelques petits scénarios de manière modeste, et j'ai le plaisir maintenant d'avoir intégré l'épicerie séquentielle. Et donc d'avoir là notre deuxième numéro en collaboration avec Mathieu et avec Jean-Philippe Travard, hein, qui n'est pas là ce soir, mais c'est une bande dessinée qui est écrite à trois, donc on lui passe le bonjour. Et c'était important aussi de préciser que c'est vraiment un travail collaboratif à trois.
Et tu étais déjà venu dans l'émission pour déjà un numéro des rues de Lyon.
Exactement, on était venu pour mon premier numéro rue de Lyon, qui s'appelait Second Front Lyon dans la guerre d'Algérie, et qui était, comme son nom l'indique, consacré à la guerre d'Algérie, et plus précisément au parcours de Salah Adehil, qui était un indépendantiste algérien du FLN sur Lyon, et qui a été le dernier guillotiné à Lyon sur cette période en 1961.
Et Mathieu, parce que bon, tu fais presque partie de l'équipe maintenant, mais septième participation à la causerie quand même.
Ben oui, on est toujours très bien reçus et c'est toujours l'occasion effectivement de pouvoir parler des projets qui avancent, en particulier au sein de l'épicerie, donc, mais pas que, puisque j'ai démarré ici grâce au GAMS et un très joli livre, donc Fleurs coupées, qui rassemblait des témoignages de femmes africaines luttant contre les mutilations féminines. Et j'avais eu la chance d'illustrer ce livre, donc, qui était ma première parution d'une certaine manière, avant que donc il y ait des parutions en bande dessinée au sein de l'épicerie et par ailleurs depuis.
Et la dernière fois que tu es venu, c'était pour ta propre BD.
Et voilà,
donc qui s'appelle, rappelle-le,
qui s'appelle L'Évasion, et qui est donc le récit de l'extraordinaire évasion d'André de Vigny, le seul détenu qui se soit évadé de la prison de Montluc en 1943, pendant la guerre. Donc
vraiment le seul.
Le seul qui se soit évadé, qui ait conçu son évasion, même si bon, quelqu'un a profité un petit peu de tout ça, mais les lecteurs se rendront mieux compte de la finesse de notre débat en lisant la bande dessinée au plus tôt.
D'autant plus qu'il me semble qu'il y a un certain Adrien quelque chose qui a fait un cahier dans ta BD. Enfin,
voilà, effectivement, un cahier historique à la fin qui permet donc de voir aussi comment je suis passé des mémoires et de toutes les archives dont on peut disposer à une fiction historique. Et j'ai pu bénéficier des recherches qu'avait fait auparavant Adrien, qui, comme il l'a dit, m'a fait découvrir cette histoire il y a maintenant 7 ans. Et voilà, et depuis la BD a vu le jour et vit son petit bonhomme de chemin.
On renvoie les auditeurs et auditrices à l'émission qu'on avait fait ensemble. Et quand même...
Ah oui, non mais quand même, oui. Enfin là, vous le voyez pas, mes auditeurs, auditrices, mais sur la table de la causerie, enfin de Radio Canu...
Il y aura une photo sur le blog.
Il y a un prix que tu as reçu ce week-end.
Voilà, donc ce week-end, j'étais donc, au festival Bédard de Rive-de-Gier. Et au cours de ce festival est remis le prix Freddy Lombard, qui récompense un premier album. Ça s'appelle Freddy Lombard car c'était un personnage du dessinateur Yves Chaland, qui a été un dessinateur qui a marqué les gens qui ont connu son œuvre et qui l'ont entouré en fait, les autres artistes donc ont travaillé avec lui, notamment dans les années 90. Et il est décédé à 27 ans, précocement. Et depuis, donc, un prix a été monté justement pour récompenser les jeunes auteurs ou les auteurs moyennement jeunes mais qui publient des premiers albums. Et j'ai
jeune dans la BD, quoi.
C'est ça. Voilà. Et donc, je suis très heureux d'avoir reçu donc ce prix hier. Voilà. Et donc, je voulais emmener. Effectivement, donc, les lecteurs ne se rendent pas compte, mais tout le monde peut témoigner que c'est un prix d'un fort beau gabarit.
Ah oui. mais vraiment, on mettrait une photo. Et là, je pense applaudissements quand même pour le prix.
Bravo. Merci. Bravo. Donc, voilà,
c'est mérité quand même.
Je pense que c'est grâce à l'émission de la Côte d'Ivoire.
Écoute,
on n'aurait pas pu dire le contraire. Non, on peut aussi quand même vite fait rappeler justement ce que sont les rues de Lyon et l'épicerie séquentielle, parce que, enfin, on espère toujours qu'il y ait des nouveaux auditeurs et auditrices et qu'on invite vraiment à sauter sur ces petites BD mensuelles qui, enfin, moi, j'ai découvert par Mathieu, en fait, c'est vrai, et c'est vraiment génial. Mais vas-y, enfin, allez-y.
Vas-y Mathieu.
En même temps, en chorale.
Oui. Moi je suis nouveau donc je vais laisser l'ancien en parler, il en parlera bien mieux que moi.
Puis je suis chaud là parce que ça fait deux jours que même je l'explique, je ne fais pas que dédicacer ma BD, à chaque fois j'explique aux gens le concept de l'épicerie séquentielle, je présente donc les numéros qu'on peut donc voilà, qu'ils peuvent trouver. Donc pour rappel, voilà, l'épicerie séquentielle, donc c'est ce nom étrange, c'est parce que une association d'auteurs de bande dessinée s'est fondée donc en 2004 avec l'idée de rassembler les auteurs lyonnais et quelque part de créer les circuits courts en BD, donc épicerie, petite allusion à cela, et puis séquentiel parce que la BD c'est l'art séquentiel. Et surtout depuis donc 7 ans maintenant, le numéro 84 vient de sortir, c'est pour ça qu'on est là ce soir, depuis 7 ans, tous les mois, donc cette association d'auteurs lyonnais sort en autoproduction à la suite d'un travail de A à Z jusqu'à la livraison par nos soins aux libraires lyonnais. Ou l'envoie à nos abonnés, eh bien, tous les mois. Donc, il y a un aspect de l'histoire de Lyon en bande dessinée, dans un récit complet de 10 pages. Et avec, à chaque fois, un auteur différent, puisqu'on tourne. Et donc, pour le lecteur, c'est à la fois la surprise d'un sujet qu'il ne connaissait pas forcément, ou qu'il va découvrir encore plus richement. Et en plus, un style de dessin différent du mois précédent et du mois qui va suivre. Donc c'est, voilà, c'est assez sympathique. Et puis donc les rues de Lyon, c'est un concept économique alternatif, puisque donc en faisant tout de A à Z, en étant bénévoles les uns pour les autres chaque mois, et ben du coup l'auteur du mois gagne à peu près 3 fois plus qu'avec une maison d'édition normale. Et donc c'est un des rares exemples de travail rentable dans le monde de la bande dessinée.
Un sujet d'une émission peut-être un jour à faire. La situation des auteurs et des autrices. Enfin vraiment, parce que je trouve que c'est un truc qui est assez hallucinant en fait. Alors on peut parler de la BD ou autre, mais il y a aussi dans d'autres domaines où effectivement ceux qui créent touchent pas vraiment grand chose sur ce qu'ils font en fait. Enfin bref, on sort
on
du
pourrait
truc.
Effectivement creuser.
Non mais oui, enfin je trouve que ça pourrait être vraiment une émission.
C'est pour une émission où Mathieu vient faire une chronique. Ça. Pour une fois qu'il présente un bac quelque chose, il vient faire une chronique.
Non mais
d'ici là, Adrien aurait été formé.
Voilà. C'est bon.
Jamais aussi bien le brief que toi.
tu y arriveras. Non, enfin vraiment là, je vais faire mon fanboy, mais enfin j'invite vraiment les auditeurs auditrices à vraiment feuilleter. C'est hyper varié. Autant il y a quelques mois, c'était sur la mère Brasier, une cuisinière lyonnaise. D'autres fois, c'est effectivement, on est plus sur de l'historique, enfin etc. Comme le numéro qu'on présente ce soir. Et c'est vraiment, enfin des dessins tellement divers et des touches, enfin c'est vraiment génial, vraiment courez-y quoi.
À l'heure, tu évoquais le numéro sur la mâche croûte qui toi t'a beaucoup touché au niveau esthétique. Ben voilà, il va y avoir des coups de cœur en fait selon les lecteurs. Et c'est ça qui est très chouette. Ouais.
Et en même temps, on découvre vraiment des trucs historiques et c'est vraiment génial. Enfin moi qui suis pas un grand littéraire, etc. Enfin ça vous met un peu sur des sujets que vous pouvez toujours derrière approfondir, et je trouve que c'est vraiment une super bonne et femme me fait signe, et oui ça coûte la modique somme de 3€.
Non mais je trouve que c'est pas très cher. Non, mais honnêtement, oui. Quoi. Ben, pour la qualité du travail, oui. Et ouais, franchement.
Ben là encore, c'est donc le fait de travailler comme ça sans intermédiaire, tous ensemble, qui fait qu'on arrive à ce prix de 3€, avec depuis le début donc ce concept, 1€ le libraire, 1€ les frais de fonctionnement et 1€ donc l'auteur ou les auteurs du mois, ce qui va faire donc 33% pour des auteurs, quand aujourd'hui des contrats c'est généralement 8 à 10%. Et parfois un peu plus quand on tombe sur une maison d'édition éthique comme Jargy, la maison donc qui a édité L'Évasion. Mais voilà, donc c'est vraiment tout un concept particulièrement intéressant, les rues de Lyon. Et j'en parle d'autant plus facilement que moi je suis arrivé alors que tout était déjà prêt. Mais voilà, par contre, donc après, on met la main à la pâte les uns les autres. Là, Adrien vient d'entrer, il a pu constater que effectivement, il faut mettre un peu la main à la pâte
et c'est beaucoup
pour que ça avance.
Parce que c'est en ce moment la période de Noël, c'est donc c'est fêtes, la préparation de coffrets, de grosses livraisons aux libraires, de prendre son sac à dos en vélo pour aller à la librairie, une voiture parce qu'il y a une grosse commande avec des cartons, donc c'est vraiment du fonctionnement associatif, mais ça fait d'autant plus plaisir quand on est sur un projet auquel on tient et auquel on croit, parce que là vraiment, Mathieu vient d'en parler d'un point de vue de la rétribution des auteurs, c'est vraiment quelque chose de fondamentalement important actuellement dans le milieu de la BD et plus largement. Donc c'est d'autant plus motivant, mais c'est le principe de l'association, et d'autant plus quand on réussit à toucher deux sujets, moi, qui me touchent particulièrement et qui m'intéressent, histoire, BD, et en plus les auteurs qui sont bien payés, je ne pouvais que souscrire à ce projet.
Et j'allais dire, avant qu'on fasse peut-être une coupure musicale, on va pouvoir quand même donner le titre déjà effectivement de ce numéro 84 que vous venez de présenter, c'est la Marche sur Lyon. Juste un tout petit teaser, avant qu'on fasse une petite coupure, vite fait résumer en quelques mots le sujet du numéro 84 du mois de décembre.
La Marche sur Lyon, c'est l'histoire d'un groupe d'étudiants chinois qui faisait partie d'un mouvement qu'on appelait le mouvement Travail-Études, qui se sont retrouvés sans profession, sans travail, sans revenu, et qui a essayé de...
Je vais arrêter Adrien, puisqu'on a dit juste un teaser.
Ah oui, c'est vrai. J'allais raccourcir.
Une histoire inconnue à Lyon, très connue en Chine.
Ah, ça c'est bien comme teaser. Et là on fait un signe à Clara pour qu'elle lance la musique.
Opportunity be knocking. You gotta let a motherfucker in. I kiss my mother on the cheek, tell her that I love her. You ain't gotta worry about a thing, I got it covered.
Why you think I'm out here acting crazy? Why you think I'm out here acting crazy? Why you think I'm out here acting crazy? Ma, you know I'm still your little baby. All my life I was a fuck up. Now I pull the truck up. Same bitch stuck up. Now she wanna suck us. See me hanging out the window screaming, what? No more tough luck. A different glove is what I'm cut from. Baby, oh my lord. The cops chasing Bronson in the old white Ford. Shit, I'm on that all night tour. Bitch, I'm alright, but I'm off that roar. I'm in a road dancing south on the top floor. You would swear I'm Puerto Rican, but I'm not, Lord. Hot hoes, every city that we go singing. Head side, kill them what they know. All I do is eat oysters and speak six languages and three voices. It's Adriatic summers on a sailboat. Don't even try to call, I'm not available for nothing. Unless it's stupid paper, how about the Studebaker with Anita Baker? Opportunity be knocking. And God let a motherfucker in. I kiss my mother on the cheek. Tell her that I love her. You ain't gotta worry about a thing, I got it covered. Why you think I'm out here acting crazy? Why you think I'm out here acting crazy? Why you think I'm out here acting crazy? Ma, you know I'm still your little baby. I feel so alive, I think I shit myself. I should kiss myself. I'm staring at the man inside the mirror. The reflection shows a wolf though. Goddamn, I'm still cute, ho. All my women play the flute. Show me play some melon and prosciutto. Left-handed make the fender cry. Count money with a reverent smile. A devil's eye. Half Cherokee and Gemini. Motherfuckers are dumb Pete from Jump Street. And turn your chest plate to lunch meat. I'm in a Humvee, looking like a young me. Now these motherfuckers all wanna be chubby. I switched the season, now the hair's curl. Tan skin, I need a bad girl. Cause James Brown said it's a man's world. In a Trans Am twirl. The burner handle made of pearl. That's just daddy's little girl. Opportunity be knocking. You gotta let a motherfucker in. I kiss my mother on the cheek. Tell her that I love her. You ain't gotta worry about a thing, I got it covered. Why you think I'm out here acting crazy? Why you think I'm out here acting crazy? Why you think I'm out here acting crazy? Ma, you know I'm still your little baby.
Knocking, let that motherfucker in. Let that bitch in. Opportunity be knocking. Let them motherfucker in. Let them motherfucker in.
Please. Sweet. Mr. Baklava. Ain't trying to be broke.
Tu es toujours à l'écoute de la causerie sur Radio Canu de 22h à 23h, toujours en compagnie de Mathieu et Adrien pour parler des rues de Lyon, pardon, du numéro 84 de décembre 2021 donc. Et la playlist, comme à notre habitude lorsqu'on reçoit du monde, elle est faite par les invités. Et là, je ne sais
pas. Enfin, par un invité en particulier ce soir.
Ne chambrez pas Mathieu comme ça. Il est fatigué. Et donc, c'est qui a choisi ce titre-là?
Là, c'est moi, ouais.
C'est Action Bronson.
Ouais, c'est ça, avec... Acting Crazy.
Yes, merci.
Et voilà, c'est un morceau que je kiffe beaucoup depuis des années et que j'écoute régulièrement. Et là, quand Mathieu m'a demandé on a besoin de morceaux, je me suis dit un petit morceau histoire de mettre l'ambiance au début. C'est du rap East Coast classique.
Mais très
ça
bien.
Me plaît beaucoup.
Eh ben cool, merci bien. Eh ben on continue autour de cette thématique. Alors on a eu un super teaser de Mathieu, mais là on va peut-être laisser Adrien développer un peu plus le sujet. Et donc ouais, en fait donc le numéro 84 c'est l'histoire de la marche sur Lyon. Et donc Mathieu avant la coupure musicale disait c'est un événement très peu connu, voire pas connu du tout à Lyon, mais très connu en Chine. Et ben justement, est-ce que tu peux nous en dire beaucoup, un peu plus?
Ouais, même beaucoup plus d'ailleurs.
Oui.
Effectivement, Mathieu a raison. C'est aussi ça qui est super intéressant sur ce sujet, c'est que en Chine, c'est vraiment un élément fondateur, et notamment au niveau du Parti communiste. Et ici à Lyon, il y a très très peu de Lyonnais qui le connaissent. De manière générale, même en France, c'est quelque chose de tout à fait méconnu. En fait, c'est un mouvement, ce que je commençais à dire tout à l'heure, qu'on appelle le mouvement travail-études, et où des étudiants chinois étaient venus en France, parce qu'on est sur un pays extrêmement rural à l'époque en Chine, avec des techniques d'industrialisation assez peu développées. Donc on envoie des gens pour découvrir un pays industrialisé.
Juste, si tu peux donner la date.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
On est en 1921.
Voilà, parce que pour que les gens arrivent à savoir de quand on parle.
On est en 1921 et ils vont arriver.
Oui, ils arrivent en fait du mouvement travail-études dans les années précédentes,
oui,
avant
tout
la Première Guerre mondiale.
C'est ça. Et à partir de la Première Guerre mondiale, justement, ils vont se retrouver à la fin, suite à la crise économique qui va suivre le conflit, dans une situation de dénuement assez importante. Et là, ils vont essayer de trouver des ressources, essayer de trouver des moyens de rester en France. Et ils vont apprendre la création d'un institut franco-chinois à Lyon, donc au Fort Saint-Irénée, pas très loin de Fourvière. Et ils vont donc décider de venir à Lyon pour s'inscrire dans ce centre et pouvoir continuer leur parcours d'étudiants universitaires ici en France et précisément à Lyon. Ce qui va leur être refusé, puisque la sélection des futurs étudiants de ce centre avait déjà été réalisée sur concours, sur des personnes habitant en Chine, favorisant, on peut le dire, hein, quand même des personnes plutôt issues de la bourgeoisie. Et à partir de là, vont décider d'occuper le fort, de manifester leur mécontentement. Ils vont être arrêtés par les autorités françaises et ils vont être envoyés au fort Montluc, donc le fort situé à côté de la prison qui n'existait pas à l'époque, qui était en construction la même année. Et au début, ils jouissent d'un statut, on va dire, d'hébergement. Ils sont hébergés au fort, mais ils ont la possibilité de sortir dans la rue la journée. Ils participent à quelques manifestations, ils distribuent des tracts. Et lorsque les réels étudiants qui avaient été sélectionnés sur dossier vont arriver au centre, là on a peur qu'il y ait des troubles plus importants. Donc ils sont réellement internés au fort pendant encore de quelques semaines. Et le 13 octobre 1921, ils vont finalement être expulsés, envoyés via la gare des Brotteaux à Marseille et montés sur un bateau qui s'appelle le Paul Leca. Et à partir de là, ils sont renvoyés en Chine. Donc 120 étudiants à peu près, il n'y a pas un chiffre précis, quelques petites estimations, qui rentrent en Chine. Et à partir de là, cet événement va devenir un événement très très important dans l'historiographie chinoise.
Et alors, sous quel angle en fait ?
C'est qu'en fait, donc, parmi ceux qui ont participé à cette marche, ou qui l'ont organisée, eh bien, on a quelques-uns des futurs dirigeants de la chaîne communiste. Et beaucoup ont appris en fait à cette occasion le militantisme ou étaient initiés au marxisme et vont le développer ensuite. Et donc c'est Adrien qui nous a amené il y a quelques mois donc ce scénario, et avec en plus en faisant le lien avec le fait que le Parti communiste chinois est créé cette même année 1921. Et donc c'est cette espèce d'interaction entre les ouvriers ou étudiants présents en France et la Chine que a émergé en fait ce parti qui va prendre son essor plus tard et qui voilà cette année donc en Chine justement évoque ce centenaire de sa création.
Mais alors moi j'étais passionné vraiment par ce numéro, et j'ai du coup même je suis allé après chercher un peu d'autres sources d'infos, parce que c'est un peu le but des rues de Lyon, hein. Souvent c'est en 12 pages de BD, on peut pas tout mettre et c'est normal. Et j'ai été épaté parce qu'en fait c'est vraiment très peu connu, enfin comme vous le disiez tous les deux. Mais alors en plus c'est sous-estimé, j'ai l'impression en France par rapport à ce que ça a représenté, comme vous le disiez, pour le Parti communiste chinois. Mais aussi, dans la BD, on croise quand même Deng Xiaoping, quoi, qui sera le successeur de Mao, qui est là, qui est un militant ouvrier, on va dire plutôt harangueur de foule. Voilà. Et ce qui est étonnant, c'est que moi, j'ai découvert par ce biais-là qu'il était en France à cette époque-là. Et je vous avoue que sur le coup, je me suis dit, est-ce qu'ils se sont dit on va mettre Deng Xiaoping comme ça pour faire bien, ou est-ce qu'il était vrai? Et en fait, oui, j'ai découvert qu'il était vraiment en France, qu'il était vraiment ouvrier, et que il a été dans le mouvement de soulèvement ouvrier à cette époque-là, et pas du tout reconnu, y compris par les militants, on va dire français et occidentaux en général, qui avaient tendance un peu à les scinder, un peu en les mettant sur le côté. Tout en les aimant bien, mais enfin, il y avait quand même un rapport assez étrange entre, on va dire, le courant marxiste européen et les travailleurs chinois. Voilà. Et mais c'est... Enfin, moi, c'est passionnant de voir ça parce que je savais pas du tout vraiment que bah voilà qu'il était là. Enfin, pas que lui d'ailleurs, parce qu'il y en avait d'autres. Donc, vous voulez dire que la Chine, c'est à cause de des grèves en France, c'est ça?
Non, mais par contre, pour être précis par rapport à Deng Xiaoping, ouais. parce qu'effectivement, c'est une personnalité, on va dire,
bah, qui est importante.
Ouais. On évoque ouais. le sujet. Il faisait partie du mouvement travail-études, oui. Il n'est pas participé à la marche sur Lyon,
non, ça,
bien
oui.
précisé
contre, c'est
bien
précisé dans la BD.
Dans la BD. Ouais. Et la scène où on le voit sur cette petite manifestation, là on est sur une liberté scénaristique, hein, on n'a pas de source qui vienne le corroborer. C'était nous une manière vraiment de montrer qu'on a eu des gens qui ont ensuite pesé, qui ont été des personnes très importantes en Chine et qui ont eu un parcours politique extrêmement important. Par rapport à ce que tu disais au début aussi, je pense que les rues de Lyon, on est sur 10 pages, on ouvre sur un sujet, et là on a mis aussi à la fin une petite bibliographie, hein, comme ça ouais, ça permet aux gens de pouvoir aller un peu plus loin, parce qu'on a la chance d'avoir ici à Lyon le nouvel institut franco-chinois, donc sur leur site il y a déjà quelques articles, quelques textes rédigés avec des photos aussi extrêmement intéressantes sur cet épisode, et puis on a un fonds à la bibliothèque municipale de la Part-Dieu qui est extrêmement important. Et où là aussi, sur le site internet de l'ABM, on a la possibilité d'avoir accès à énormément d'informations. Donc il ne faut pas hésiter à aller voir et puis de se rendre compte qu'à Lyon aussi, on a la chance d'avoir ce genre de choses.
C'est là que j'ai un peu gratouillé, j'avoue. Bah, c'est vrai que quand on tape, en fait, c'est un peu la première source qui apparaît, c'est la bibliothèque municipale de Lyon. Donc,
c'est ça, et après il y a deux, trois autres articles qu'on a mis aussi sur la dernière page pour permettre aux gens voilà, de pousser un petit peu plus pour ceux qui seraient tentés d'essayer de poursuivre les lectures.
Et alors, juste comme ça, je fais un peu d'histoire lyonnaise. J'ai découvert, parce que je vais raconter ma vie pendant deux secondes. Moi, je travaille à Neuville-sur-Saône et je travaille sur un site qui était anciennement un site chimique et qui ne l'est plus. Et en fait, j'ai découvert que la Poudrière, en fait, qui était avant, entre 1911 et 1915, quand elle a explosé, en fait, avait 70% des gens qui travaillaient là-bas étaient chinois. Voilà. Sauf qu'ils n'ont jamais été enregistrés. C'est-à-dire qu'ils sont passés sans être vus. Vous voyez, c'est un peu étrange. Et imaginez ça, c'est... Alors, on est en période coloniale, voilà, donc on se doute bien de tout ce qu'il y a derrière, mais moi, j'ai été épaté de me dire... alors, c'est horrible, mais donc, il y a une Poudrière qui explose et on ne sait même pas les noms des gens qui ont été tués dans l'explosion. Et
bah dans voilà. les limites de la solidarité ouvrière que tu évoquais ouais. tout à l'heure, il y avait précisément le fait que ces ouvriers qui étaient présents pendant la guerre de 14, quand les ouvriers français sont revenus du front... Eh ben, il était hors de question qu'ils soient au chômage eux-mêmes, etc. Oui, donc ceux qui, les Chinois ou comme ça, qui avaient travaillé pendant la guerre, parfois on leur a dit de quitter les usines pour laisser la place, ce qui rejoint d'ailleurs...
Ce qui explique un peu le fait qu'ils se retrouvent sans revenus.
Voilà,
en fait,
ouais. et qu'ils revendiquent. Donc, et donc Deng Xiaoping, on ne connaît pas totalement son rôle dans la marche, par contre on sait qu'il fait partie... de ces militants à l'époque qui vont vers de telles actions. Et alors il y a d'autres personnages donc qui eux ont laissé une trace plus forte dans cette marche, notamment Chen Yi et d'autres personnages qui ont laissé leur nom d'ailleurs sur des documents qu'ils ont eu à remplir pour l'organisation, pour les autorités françaises quand ils ont été arrêtés. Et ça, ce sont aujourd'hui des documents qui pour les Chinois à l'heure actuelle sont très importants. Et donc il y a depuis quelques années, on expliquera dans quelles conditions il s'est créé, un musée de l'Institut franco-chinois qui raconte donc, qui permet à Lyon, aux forces Saint-Irénée, de découvrir un peu cette histoire. Et donc chaque année, voilà, et alors avant le Covid surtout, c'était particulièrement le cas, des Chinois vivant en Europe ou faisant un voyage en Europe font le détour à Lyon pour venir voir ces documents qui sont essentiels, voilà, qui sont fondateurs.
Ouais, ça a une vraie importance pour les Chinois en fait. Enfin, c'est effectivement, enfin c'est une super découverte. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais,
si, c'est toujours intéressant.
Non, mais c'est vraiment, enfin je trouve que, enfin c'est un taf vraiment super bien que ces rues de Lyon et spécifiquement ce numéro-là. Et juste l'idée, elle est venue comment justement d'aller sur ça. C'est toi Adrien qui a initié un peu le. Non, vous êtes.
Alors en fait, il y a eu deux idées.
Oui,
il y a eu deux idées parallèles. Ouais. Moi, dans le cadre de mes fonctions au mémorial, j'avais travaillé dessus parce que effectivement, même s'ils sont pas passés à la prison, on avait une hésitation sur le lieu d'internement. Et on reçoit régulièrement, pour appuyer ce qu'on disait avant, des équipes de télé chinoises qui viennent faire des documentaires là-dessus. Il y a notamment, là, sur l'année du centenaire, eu un gros tournage qui est un gros documentaire qui a été produit et diffusé en Chine. Et moi, là, dans le cadre justement de ces activités de bande dessinée, j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet en me disant ça peut être un truc bien pour les rues de Lyon. J'ai envoyé un dossier avec un petit scénario à Mathieu en lui disant ça t'intéresserait. Et là, il m'a dit ben.
Oui, alors ben là, je vais reprendre.
Vas-y, reprends.
C'est assez cocasse, en fait, voilà. Donc l'épicerie séquentielle, c'est un défi vraiment pour nous de tous les mois arriver à sortir comme ça un numéro. Et on essaye d'avoir 3-4 mois d'avance, mais c'est pas toujours possible. D'ailleurs, quand on a fait le numéro sur Second Front, le numéro 38 avec Adrien, on était arrivé comme ça à un moment un peu de crise. Et hop, on a saisi l'opportunité pour placer ce numéro. Mais là, donc, Jean-Philippe Travard, donc, qui est au groupe suivi, puisqu'on se partage les fonctions, qui est régulièrement occupé à dire on manque de scénario, on manque de storyboard, envoyer des sujets, etc. etc. Et quand Adrien m'amène sur un plateau, tac, tout un scénario, tout prêt, avec une documentation photographique toute prête, etc., j'appelle Jean-Philippe pour lui dire, écoute, là, j'ai... parfait, là, je te le fais, je peux te le dessiner, celui-là, tac, tac, en quelques semaines, voilà, on a un sujet impeccable. Et au lieu d'être réjoui, Jean-Philippe me dit, oui, c'est dommage, parce que moi, je viens d'écrire un scénario là-dessus et j'allais te le proposer. Voilà. Et donc, on se retrouve avec deux scénarios cohérents, finis, etc., qui pourraient tous les deux faire un Rue de Lyon. Et donc, heureusement, on a des gens qui ont un amour propre, mais aussi une capacité à aller vers les autres. Et donc, Jean-Philippe et Adrien ont commencé à bosser sur la réélaboration d'un scénario qui utiliserait les éléments les plus intéressants des deux et qui resterait, qui n'aurait pas l'air à la fin d'un bricolage. Donc, voilà. Et donc, j'espère que vous trouvez que ça réussit.
Moi, de toute façon,
franchement,
pas objectif, j'en sais rien, mais
bon, l'objectivité, ça n'existe pas vraiment.
Ah, c'est ça.
Non, mais pour être clair, moi, je l'ai lu et j'étais pas au courant de cette histoire-là de scénario et ça se ressent pas. Enfin, je veux dire, il y a une fluidité assez forte. Et d'ailleurs, moi, je conseille aux gens de le lire d'une traite, comme on dit. C'est pas très long. Des fois, il y a des gens qui disent oh, j'ai deux pages dans le métro, voilà. Parce qu'il y a une vraie continuité, y compris jusqu'à la fin où vous allez rencontrer, vous interviewer, mais ça, on en parle après la coupe musicale. Ça s'appelle un teasing.
T'es bon, toi aussi.
8 ans de radio.
Allez, une petite pause musicale.
Why you messing with us? We ain't got no guns, we just let the bears witness the grizzly. Maybe pull up. You ain't ready, ready, roll up. Pull up a machete, cut the bamboo paper. Let's roll out, baby, loud.
Bonsoir, c'est la causerie. Pardon, on est en train de discuter entre nous. Donc c'est toujours la causerie au 102.2 sur RadioCalu.org. Et voilà, et on est toujours avec Adrien et avec
Mathieu.
Mathieu, je perds les prénoms ce soir. Donc du coup, on parle toujours des rues de Lyon et on parle de la marche sur Lyon. Et on vient d'écouter un morceau choisi par Adrien, si je ne me trompe pas.
Ouais, ouais, toujours, comme,
toujours,
comme
parce
le
que c'est, voilà. Et c'était
The Avalanche. Et c'est un groupe qui m'a vraiment fait complètement kiffer, mais que j'ai découvert sur le tard et qui a sorti un album cette année aussi, un nouvel album, et qui est un mélange de hip-hop, d'électro, tout, et j'adore absolument tout ce qu'ils font.
C'est drôle parce que ça sonne hyper 70s, un peu comme ça.
C'est un gros mix de tout, ouais. Mais qui fonctionne parfaitement.
Mais tu as des très bons goûts musicaux.
Heureusement, sinon on n'aurait pas eu de musique. Ça aurait été dommage. Donc oui, on parle du numéro 84 des rues de Lyon ce soir. Donc on expliquait la marche sur Lyon, la marche des travailleurs étudiants, c'est comme ça qu'on disait, étudiants-travailleurs, je ne sais plus.
Mouvement travail-études.
Travail-études, voilà. Donc chinois, qui réclamaient le droit de pouvoir faire des études et sont montés. Alors quand on parle de marche, c'était combien de personnes qui sont montées sur Lyon, du coup, ce qu'on a, on n'a pas abordé ça.
Oui, parce qu'ils étaient dans différents coins de France, hein. Il y avait le Creusot, etc. Hein, c'est...
Ouais, ils sont environ 120 à arriver sur Lyon et à demander l'inscription à l'Institut franco-chinois. Mais effectivement, ils viennent de Montargis, le Creusot, la région parisienne, vers Saint-Étienne, tous les endroits où on peut avoir justement une main-d'œuvre industrielle et puis à côté poursuivre des études et d'avoir une application technique. Et donc voilà, ils sont environ 120.
Okay. Et ils viennent donc demander le droit d'étudier à l'Institut franco-chinois qui a donc été monté Fort Irénée à Lyon. Et alors, il sert à quoi au départ cet institut à cette époque-là?
Alors, l'Institut franco-chinois. L'institut,
ouais. Dans les années 20, je parle. Hein.
Tu veux dire avant qu'il devienne l'Institut franco-chinois?
Mis en place, en fait, le but c'est quoi?
Alors le but c'est d'accueillir des étudiants chinois et qui vont être logés, qui vont travailler, donc qui vont obtenir des cours, qui vont pouvoir aussi se déplacer dans les universités lyonnaises pour avoir d'autres cours et qui vont pouvoir parfaire leur formation, une formation universitaire dans différents domaines pour pouvoir, une fois de plus, l'objectif étant d'avoir un retour en Chine pour pouvoir ensuite utiliser ces personnes sur le territoire chinois et permettre le développement du pays.
Oui, parce que en fait, alors c'est peut-être pas fort. Non, c'est en faisant des recherches un petit peu, mais je trouve que c'est aussi peut-être un peu intéressant de resituer finalement aussi ce qu'est la Chine dans ces années-là. En fait, le parti n'est pas encore au pouvoir.
Mais loin de là.
Ouais, ouais. Juste, enfin, je sais plus où vraiment ta branche, t'es l'historien.
Mais t'as bien fait de venir.
Vous êtes les deux historiens. Alors moi, je suis un ignorant. Donc éclairez-moi et éclairez-nous un petit peu. Non, mais pareil, vite fait, c'est pas une thèse forcément sur la Chine des années 20, mais à quoi ressemble finalement la Chine à cette époque-là, quoi?
Bon, là, on est sur une Chine très rurale, sur un pays qui va rentrer petit à petit dans une guerre civile. En 1921, on a justement la création en juillet 1921 du Parti communiste chinois, qui ensuite va être soutenu par l'Internationale communiste. Mais il faut attendre la fin des années 40 pour avoir vraiment l'arrivée du Parti communiste au pouvoir. Donc on est sur une transition qui va se faire petit à petit. Et d'un point de vue industriel, on n'a absolument rien.
D'un point de vue politique, le cadre, c'est la République, en fait. C'est qu'il y a eu en 1911 une révolution, donc, et donc c'est l'Empire qui était là depuis des siècles, donc qui est tombé. Et le prétexte de la révolution, en fait, c'est de considérer que l'Empire a entraîné la Chine dans un retard et une faiblesse considérable par rapport donc, aux puissances occidentales. Donc justement, tout ce mouvement de travail-études et ensuite cet institut franco-chinois, c'est dans toute cette démarche de rattraper le retard. Mmh. Et dans les archives, comme ça, on voit bien d'ailleurs la motivation de ces jeunes travailleurs puis étudiants qui ont vraiment l'idée de revenir en Chine un jour. Quoi. Ils viennent vraiment apprendre pour...
pour aller ensuite enrichir... Enfin... contribuer à l'élévation du niveau.
Dès l'origine du Parti communiste chinois, il y a cette dimension nationaliste, en fait. Certains n'oublieront rien de ce qu'ils ont vécu là et joueront un rôle dans la Chine communiste qui enfin dans le régime communiste, qui naît en 1949 avec la victoire de Mao. À la suite d'une longue marche qui est suite de la marche sur Lyon.
J'ai pas osé faire le...
voilà, parce qu'en fait c'est comme le tacos, c'est né à Lyon. Voilà.
C'est un peu le ça, nous reviendrons pour cette question précise
pour cette
prochaine
question-là.
Fois.
Mais en fait, ce qui enfin, je sais pas comment dire, pas m'interpelle, mais cet institut, en fait, il a pas duré extrêmement longtemps sur Lyon en tant qu'institut de formation. Si, ou
bah
c'est
pas,
moi qui...
pas si mal, parce qu'il dure de 21 à 51, si
oui, quand
je
même,
me
ouais.
trompe.
Hein. 30 ans,
oui. Et donc, il y a vraiment beaucoup d'étudiants donc, chinois qui sont passés ici et qui, justement, ont acquis de quoi devenir des personnages fort utiles à leur retour dans la littérature, dans l'urbanisme. Alors, je ne sais plus comment s'appelle cet élève de Tony Garnier, par exemple, qui sera un des premiers grands urbanistes chinois. Donc voilà, les Chinois avaient appris la soie aux Lyonnais, enfin, où les Lyonnais, via d'autres, avaient volé la soie aux Chinois.
C'est un peu
mais
plus,
ensuite,
un peu
donc,
plus comme ça, ouais.
Ensuite, voilà, il y a des choses donc, qui ont servi au développement de la Chine au XXe siècle, depuis Lyon.
Avec une petite interruption pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, bien évidemment,
oui,
parce
évidemment.
Que ça aussi, il y a peu de gens qui le savent, mais c'est le siège de l'espionnage et du contre-espionnage allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est le siège de ce qu'on appelle l'Abwehr.
D'accord.
Le Fort Saint-Irénée. Donc, on est aussi. Bon, là, on ne pouvait pas l'évoquer dans la bande dessinée, puis il y a assez peu d'archives quand même sur ces éléments. Mais voilà, on a une interruption sur cette période. Donc, ça reste une période au total assez large avec beaucoup d'étudiants qui vont passer ici.
Ah, donc, c'est quand même intéressant de voir que la ville de Lyon a un lien quand même assez fort avec la Chine depuis largement près plus de 100 ans, finalement. Parce que c'était avant, vu qu'ils étaient déjà là avant, et avant la fondation. Donc voilà, c'est. Non, parce que je dis ça parce qu'en ce moment, on a quelques délires de. Vous savez qu'avant, la France d'avant, elle était entièrement blanche, il n'y avait pas, pas de lien avec l'extérieur, tout ça. Donc, ça montre un petit peu que ce n'est pas vrai et qu'il y a longtemps qu'il y a des échanges, et heureusement.
Oui, alors c'est pas avec forcément les Chinois ou la Chine qu'il y en a eu le plus.
Non,
mais c'est
mais
évident qu'effectivement. Ben la France est un creuset, hein, à l'image, un pays qui s'est construit autant sur l'immigration qu'un pays comme les États-Unis. Enfin, c'est tout à fait comparable. Et c'est vrai que la dimension asiatique de cette immigration, elle a souvent été particulièrement oubliée.
Ouais.
Et donc, effectivement, c'est intéressant d'en parler.
Et on a parlé de la bibliothèque tout à l'heure. Hein, le fonds chinois qui est présent à la bibliothèque, c'est un fonds qui est exceptionnel. Donc ça, c'est aussi un élément qui est absolument méconnu. On dispose d'un fonds à la bibliothèque municipale de Lyon qui est exceptionnel en France.
Et parce qu'il a été conçu par des Chinois pour l'Institut franco-chinois. Alors qu'en général, un peu partout dans le monde, les fonds sur la Chine, ils ont été constitués par des Européens, parfois très savants et tout ça, mais c'est quand même particulier.
Et qu'un regard européen sur un
voilà.
pays.
Voilà. Donc là, c'est très original d'avoir un fonds comme celui-ci.
Alors, juste, je disais tout à l'heure, il y avait un teaser, parce qu'à la fin, allez jusqu'à la fin de la BD, parce que vous allez aujourd'hui vous expliquer à la fin ce qu'est devenu cet institut aujourd'hui, c'est-à-dire en 2021, parce qu'il y a toujours un institut.
Il n'y a plus d'institut.
Voilà.
Il y a un nouvel institut.
C'est là que je voulais en venir.
Et il y a un musée de l'institut. En fait, En 2014, Xi Jinping vient en France faire une visite diplomatique. Et comme la marche sur Lyon, c'est quelque chose de très important pour les Chinois et que lui-même en parle pendant 9 pages dans son autobiographie, ce que nous ont révélé donc, les services de l'Institut, eh bien, il veut aller sur le site du Fort Saint-Irénée.
Bah, d'autant plus, oui.
Voilà. Et pour le coup, on n'est pas vraiment prêt à évoquer ça à Lyon, puisque justement, on n'en a pas trop la mémoire.
Oui, c'est ça.
Et donc la Chambre de commerce et la métropole donc, vont tâcher effectivement de réveiller un petit peu cette histoire. Et en 2016 va comme ça naître un nouvel institut franco-chinois qui n'a pas vocation à de l'enseignement, mais qui a vocation à justement permettre de raconter et de connaître cette histoire. Et donc maintenant il y a un musée où sont notamment les fameux documents que j'évoquais tout à l'heure avec les noms de ces différents personnages qui y ont participé. Et voilà, et donc il y a une démarche, effectivement, Lyon tâche de, alors dans une logique aussi, aujourd'hui dans la mondialisation, dans les liens économiques qu'on tâche de tisser évidemment avec une puissance comme la Chine, il y a l'idée de rappeler cette histoire un petit peu commune, qui effectivement est lointaine, puisqu'on peut rappeler donc la soie et tout ça. Mais en plus, donc, c'est vrai que le moment visiblement de l'Institut est un moment quand même de vraie coopération, puisque les étudiants, ils vont vivre en fait à la fois sur des financements chinois et puis sur des financements locaux de la municipalité. Je crois que notamment l'alimentation et tout ça, c'est aux frais de la municipalité, me semble-t-il. Enfin, et eux-mêmes, ces étudiants, se sont investis dans la ville, ont joué un rôle dans la ville. Donc voilà, c'est ça que je pense assez légitimement, là, aujourd'hui, la métropole tâche de remettre en évidence.
Et pour compléter sur le nouvel institut franco-chinois, il y a une exposition permanente que tout le monde peut aller découvrir, qui justement reprécise l'histoire de cet institut et notamment de la marche sur Lyon. Il y a une petite partie dessus. L'exposition a été refaite il y a vraiment pas longtemps, donc on est sur une muséographie très neuve, très bien pensée. Et à côté de ça, ils accueillent aussi des expositions temporaires d'artistes chinois de manière très régulière. On est sur un lieu culturel avec aussi des rencontres, des conférences organisées, des ateliers et une médiation auprès du jeune public. Donc on est sur un vrai centre culturel qui n'est pas juste un simple musée aussi. Il y a une bibliothèque. Donc c'est intéressant. Puis c'est aussi sur le symbole, le Fort Saint-Irénée, il se retrouve au milieu du Crous. Donc autour on a le Crous, donc il y a étudiants qui gravitent autour du Fort Saint-Irénée tous les jours.
En fait c'est intéressant parce que comme tout institut c'est un soft power à double sens, voilà, comme les instituts français servent à ça aussi quand on implante un peu partout dans le monde, on le sait, mais c'est intéressant de voir que ça perdure d'une autre façon par rapport à ce qu'il était au départ. C'est-à-dire que la coopération au départ pour récupérer des connaissances est devenue une coopération plutôt liée à la culture, ce qui est devenu aujourd'hui un petit peu le mode de transmission des nations entre elles.
Tout à fait, c'est intéressant. Et alors, précisément, donc, le 13, ça intéresse donc des auditeurs d'aller plus loin et de découvrir de cette manière le numéro. En fait, le 13 décembre, l'Institut va organiser une conférence et une visite guidée du musée, et nous on sera là pour présenter le rue de Lyon et même le dédicacer.
Alors, ce que j'allais dire, c'est surtout Mathieu qui va dédicacer. Ah non, en tant que scénariste, dédicacer.
Et puis Jean-Philippe Travard ne sera pas là, bien sûr.
mais il y a marqué Adrien Allier, là, tu peux donc signer normalement.
Je peux faire une petite griffe à la fin, mais c'est quand même moins intéressant quand il y a le dessinateur à côté qui, lui, fait un petit dessin.
Puis vu qu'on vient rarement vers moi. Faire un autoportrait.
On a déjà fait l'expérience, on vient plus souvent vers lui que vers moi.
Oui, c'est normal.
Sur notre première BD ensemble, mais une fois de plus, je prends aucun ombrage.
On fait une petite pause, et on revient juste après.
We'll be right back. دبا چاہیے کونا لی دبا چاہیے کونا
لا 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 لا
Et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu et c'est toujours la causerie, comme tous les dimanches, de 22h à 23h environ. Et on est toujours en compagnie d'Adrien Rebière.
Oui, allons-y.
Ah non, pardon, je vous
entends tellement bien qu'on fusionne.
Pardon, un monstre à deux têtes.
Et de Mathieu Rebière et Adrien Allier, pardon, je suis désolé. C'est toujours autour du numéro 84 des rues de Lyon qui porte sur la marche des étudiants travailleurs chinois à Lyon en 1921. Et on vient d'écouter quoi ? Parce que la playlist, c'est toujours les invités qui la font. Et là, Mathieu nous a proposé un titre.
Donc oui, non, voilà, je vous ai proposé. Alors la fois précédente, j'avais évoqué des artistes lyonnais. Et là, j'ai tâché de rester dans une dimension locale aussi, mais alors via la BD. Parce qu'en fait, donc, ce qu'on vient d'écouter, c'est un morceau de Sarah Algan, qui est donc le morceau s'appelle Kidaba. Et elle-même donc, est une chanteuse du Somaliland, ce qui n'est pas la Somalie, qui est un État qui n'est pas reconnu par la communauté internationale encore et qui pourtant a toutes sortes d'institutions et qui va plutôt mieux, même en termes de liberté, de vie sociale, que beaucoup de pays de la région. Et en fait, je connais vaguement ce sujet grâce à Max Lefko, qui est un auteur de bande dessinée qui publie dans la même maison d'édition, Jargy, cette maison d'édition stéphanoise qui a publié L'Évasion, et qui donc a réalisé un album, Somaliland, sur Sarah. Et donc Sarah Algan, elle chante régulièrement en Europe depuis des années, elle est un peu la voix, une voix de son peuple. Donc voilà, donc je trouvais que ça valait le coup de le faire découvrir. Je viens de passer donc un jour et demi avec Max à dédicacer ensemble. Donc voilà, c'était l'occasion.
Merci à ton compagnon de salon d'avoir proposé ce titre indirectement, quoi.
Et moi je me dis, s'il a envie de venir un jour parler du Somaliland ici, ce sera avec plaisir. Voilà. Ouais.
Et je me disais, Somaliland, c'est un peu comme Taïwan par rapport à la Chine.
Ah oui.
Oh pardon, je ne pouvais pas éviter de quand même rappeler ce qu'est aussi le pouvoir central de la Chine. On en a parlé il n'y a pas longtemps dans la causerie, mais quand même, je ne voudrais pas jouer le lèche-bot d'un pouvoir. Voilà, c'était juste à titre personnel que je le dis. Mais justement, en parlant de ce pouvoir ou de ceux qui peuvent le représenter, vu que vous êtes invité, vous avez des retours déjà justement de... Alors, des gens de l'Institut ou du nouvel Institut chinois, oui, mais peut-être aussi d'autres personnes, justement, sur le rendu de cette BD.
Je vais laisser Mathieu répondre après. Là, c'est encore un peu frais. Hein. Elle est sortie il y a quelques jours.
Oui, c'est vrai. En
même temps. Pour avoir vraiment des retours, moi, les retours que j'ai dans mon entourage proche et un tout petit peu plus large sont positifs, mais retours politiques, je pense que là, il va falloir attendre un petit peu s'il doit y en avoir, mais ça m'étonnerait qu'il y en ait.
Mais retour de lecteur, oui, en fait, on est en train de livrer aux libraires. Donc voilà, à partir de la semaine prochaine, un certain nombre d'autres lecteurs l'auront lu, après vous qui avez eu la chance de l'avoir en avant-première.
C'est vrai, c'est vrai. Merci. Ce qui n'était même pas encore dans ma boîte aux lettres. Bravo les prisseries séquentielles. Je plaisante.
Pardon. Excusez-moi.
Non, mais allez-y. Hein. On arrive quand même tout doucement à la fin. Est-ce que vous aviez des choses encore à rajouter ? Ce n'est rien, ce n'était que des pompiers. Est-ce que vous avez encore des choses à rajouter justement qu'on n'aurait pas forcément évoqué ou
un
autre?
Petit correctif par rapport, vu que tu as fait une grosse erreur tout à l'heure. Moi aussi j'ai fait une grosse erreur quand j'ai parlé de la BD Second Front qu'on a publiée en 2018, février 2018. J'ai parlé de Salah Dehil qui est le dernier guillotiné, mais elle était dédiée à Abderrahmane Lakhlifi qui est... guillotiné également, mais qui n'est pas le dernier. Parce qu'en ce moment, je travaille aussi un petit peu sur Salah Dehil, donc du coup, j'ai confondu. Et Mathieu me l'a fait, me l'a précisé, donc je rétablis la vérité.
Non, ce qu'on peut rajouter, donc, puisque donc, c'est le dernier numéro, le numéro de décembre de l'épicerie séquentielle, eh bien, c'est que donc on arrive à la période de Noël. Et que c'est toujours une bonne idée donc d'offrir un coffret avec les 12 numéros de l'année. On peut offrir le coffret 2021, mais aussi 2019, 18, 17, 16, 15. Et puis on peut offrir un abonnement. parce que c'est assez agréable, tu l'évoquais à l'instant, de recevoir ensuite toute l'année son, son petit numéro. Les frais de port sont offerts, donc voilà, c'est 36 euros, les, chaque numéro, donc coûte 3 euros comme on l'a dit tout à l'heure.
Et tu peux même payer ton abonnement par mois.
Oui, tout à fait.
Oui.
C'est aussi une formule pour certaines personnes qui peuvent éviter de lâcher tout d'un coup somme. Et d'avoir juste un petit prélèvement de 3 mois.
Complètement d'accord. C'est mon cas et c'est vraiment bien. Ouais.
Et sinon, il y a les médiathèques aussi.
Oui, voilà. Il doit être dispo aussi en
oui,
médiathèque.
J'ai vérifié avant de le dire. J'ai regardé.
Pour celles et ceux qui, effectivement, n'ont oui, pas les moyens de se l'offrir. Mais effectivement, mais courez-y. Enfin, c'est... Enfin, encore une fois, on le dit à chaque fois sûrement, mais c'est vraiment génial pour toucher des petits bouts d'histoire. Alors, effectivement, là, on est strictement sur l'historique, mais aussi sur d'autres choses. Et c'est vraiment génial ce que vous faites. Alors, vous deux, évidemment, mais aussi toutes celles et ceux qui contribuent à cette...
Vous trois, même, d'ailleurs.
Ah, vous trois, oui, mais je ne vais pas parler d'une personne qui n'est pas comme ça. C'est compliqué. Mais voilà, c'est vraiment un superbe taf que vous faites, je trouve. Voilà.
Eh bien, merci. Merci au nom
beaucoup.
De tous.
Oui, oui.
T'as le melon, toi. Il parle pour tout le monde maintenant.
Merci au nom de
Non, il vient d'y avoir l'élection d'un nouveau président à la tête de l'épicerie. Je,
et c'est pas
je
toi.
Je me suis pas présenté.
C'est parce que tu bosses en sous-main, toi, Yann.
Il y a un truc. Mais du coup, est-ce que vous avez un au revoir, coucou particulier à passer, en dehors de tout ça, ou une envie, il faut quelqu'un à saluer.
Il vient d'où, celui non. qui parle
Alors, on est un petit peu en direct. Les joies de Radio Calypso. Donc, voilà.
Non, moi, personne en particulier, toutes les personnes qui écoutent et que je connais et que j'embrasse, c'est ça.
Bah, cool. Eh ben, impeccable.
Ça me paraît une parfaite clausule.
Bah. Allez, bon, on garde ça.
Eh ben, merci encore à vous deux.
Merci à vous.
Mathieu et Adrien.
Ouais, dans le bon ordre. Ouais, ouais. Et on se quitte avec un titre choisi par Adrien. et qui est LCD Sound System, c'est ça, je me
ouais,
trompe pas.
C'est ça.
Et le titre.
Oh baby.
Que j'écoute très régulièrement et que j'ai écouté en écrivant le scénario de cette BD.
Et ben voilà.
Et ben
merci
super.
À vous d'être venus.
Merci à vous.
Merci encore.
Et au plaisir de vous revoir parce que ça, je suis presque sûr que ça arrivera.
Et nous, on donne rendez-vous la semaine prochaine aux auditeurs et aux auditrices. Ouais. Toujours 22-23 sur l'antenne de Radio Canut. Et d'ici là, évidemment, il y a les formidables bandes continues de Radio Canut et plein d'autres émissions formidables elles aussi.
Et pour les gens qui habitent Lyon, bon courage, les lumières commencent. Voilà.
On vous dit à la semaine prochaine. Des bisous. Ciao, ciao.
Salut,
ciao,
des bisous. Ciao.
inner self, it's the art of dying. The book of change.